Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Esprit Sport, ce 26e numéro, avec autour de moi une équipe qui a hâte de la fin de cette série longue, bien trop longue. Kiki, va-t-il aller au Real Madrid cet été? On en a marre de cette série. Bonjour et bienvenue, Erwan, Corentin, Coraline.
Bonsoir, bonsoir à tous.
On en a marre de ça.
Moi, c'est pire qu'une série Netflix à 10 épisodes, à 10 saisons, pardon. C'est ouais, ça dure depuis 3 ans.
C'est ouais, tous les ans, tous les mercato. Ouais. Puis on a vu que c'est assez embêtant. C'est quand on demande au lendemain d'un match de Coupe d'Europe à un joueur toulousain qu'est-ce qu'il pense d'Mbappé qui part.
Il en a rien à faire.
Quand on demande au gardien de Nice qu'est-ce qu'il pense, il en a rien à faire.
Quand on demande à Ibrahima Konaté ce qu'il en pense alors qu'il joue en Angleterre.
Il en a rien à faire. Quand on demande à Guardiola, l'entraîneur de Manchester City, ils s'en foutent.
Mais après,
on comprend que c'est un événement. Mais lâchez-nous un peu avec cette histoire. Et on en parlera pas.
Ils s'en foutent parce qu'il vient pas chez eux surtout.
Oui, c'est ça. Et puis nous, une chose est sûre, Kiki au Real, on n'en parlera pas. Du moins pas tout de suite, on va attendre qu'il signe pour de vrai. Donc vous les avez...
On parle déjà, ouais.
Oui, déjà, s'il faut, il va rien se passer, il va signer... Non, il va partir. Non,
oui, ça a été annoncé là pour le coup, oui, qu'il allait partir. Donc,
ça va être clairement annoncé. Vous les avez tous entendus, l'équipe est au complet, Erwan, Coraline, Corentin. Pas de lancement particulier cette semaine, juste une petite nouveauté. On va attaquer dans quelques instants par tout d'abord les tops et les flops. Ensuite, on retrouvera Corinne Saint-Félix pour l'actualité en région, des tops et des flops avec l'équipe du jour qui sont aussi divers que variés. Sortez vos crosses et vos baskets à suivre un entretien olympique sur le hockey sur gazon avec la présidente du TUC, du Toulouse Université Club, qui est aussi élue au comité mixité du CNOSF. Sophie Raffi sera avec nous dans quelques instants. Format, catégorie, lieu, organisation, on verra tous ces sujets avec elle dans le face-à-face. Une nouvelle chronique aujourd'hui où on parlera de sport de combat avec Gabin qui n'est pas avec nous ce soir mais qui nous a parlé du MMA, on le retrouvera dans quelques minutes. Et puis, ce jeudi, les Violets vont retrouver les Portugais du Benfica Lisbonne à 18h45 au Stadium à domicile. Le débat du jour portera sur un possible exploit. Le TFC peut-il créer l'exploit en Coupe de France? On essaiera d'y répondre et on terminera évidemment avec un pronostic et une analyse du match du week-end. Tout ça, ça arrive juste après les tops et les flops.
Les tops et les flops.
Les tops et les flops. On va parler de Coraline. Est-ce que Coraline va nous parler de la section?
Alors non, j'aurais pu en effet, non. Puisque la section paloise a remporté son match face à Bordeaux, mais non, je vais pas vous parler de la section paloise, je vais vous parler de biathlon et des championnats du monde de biathlon. Impressionnante cette équipe de France, c'est avec un supplément bagage de 13 médailles, dont 6 titres, que les Français et les Françaises surtout repartent de la République tchèque. La France termine première au tableau des médailles, devant la Norvège. Mention spéciale pour les femmes qui ont été impressionnantes avec 3 titres en individuel sur 4 courses possibles. Les championnats du monde se sont donc terminés ce dimanche. Retour de la Coupe du Monde jeudi prochain, le 29, où il faudra suivre les Françaises puisque Justine Brézat-Boucher est actuellement deuxième du classement. Chez les hommes, c'est un peu plus compliqué. Le premier Français, c'est Émilien Jacquelin à la 15e place. Et mon flop, ça sera pour le non-respect des hymnes et autres chants. Il y a des traditions dans certains clubs avant l'entrée des joueurs sur le terrain, peu importe le sport, le rugby ou le foot. Alors je vais parler de ce que je connais le plus, le rugby, la Peña Bayona, la Uñada ou encore le Pilou Pilou sont des chants entonnés dans notre élite du rugby français. Pour un stade, c'est le moyen de chauffer le public et d'avoir un moment de communion avec les joueurs avant le début du match. Malheureusement, je trouve que les commentateurs de Canal+ ont la fâcheuse tendance à parler durant ces moments de frissons. Ce qui est dommage, parce que ça nous empêche, nous téléspectateurs, de nous plonger dans l'ambiance magique qui règne au stade. Par exemple, encore samedi soir, lors de Bayonne Clermont à Jean Daugé, les commentateurs ont continué de parler durant quasiment toute la durée de l'hymne des Basques. Les hymnes nationaux sont respectés, il serait bien que les hymnes et chants régionaux le soient également. Voilà, pour ça c'était pour mon flop en effet, les hymnes pas respectés.
Oui, c'est assez agaçant, tout comme les musiques pendant les temps morts des matchs.
Ouais, ça aussi, voilà. C'est depuis la Coupe du Monde que ça a été mis en place. Et en effet, moi, je suis pas forcément très très fan non plus.
Parce qu'il y a des chants qui sont lancés des fois par des supporters. Et quand on entend Charles Aznavour, alors j'ai rien contre Charles Aznavour, hein, j'aime beaucoup. Mais qu'on adore, mais
on l'embrasse.
On l'embrasse.
On l'embrasse, oui, évidemment. là où il est, on l'embrasse. Et mais on aimerait bien avoir un petit peu vive l'ambiance.
Exactement.
Plutôt que d'entendre Emmenez-moi au pays des merveilles à chaque touche, quoi.
C'est ouais, moi je trouve.
Il faut arrêter. Et voilà, c'est la vie tranchée du jour.
Et d'ailleurs, à la Coupe du Monde, parce que ça commence à la Coupe du Monde, il y avait un petit truc assez sympa, c'est que les supporters chantaient leur hymne et qu'il y avait Freddie Mercury qui se met à crier en plein milieu de l'hymne portugais, en plein milieu de, je sais pas, de chants fidjiens. Donc c'est vrai que...
C'est agaçant.
C'est agaçant. Et ça, autant peut-être que ça peut être... on le perçoit pas quand on est à la télé, mais dans le stade, on a un peu l'impression d'avoir d'être à l'opéra et d'avoir un gamin à côté qui vient de pleurer dans tes oreilles. Donc c'est un peu embêtant.
Oui.
Non, puis c'est dommage effectivement, quand il y a une ambiance qui est donnée, des chants qui commencent à être entonnés, c'est dommage. Après, s'il n'y a pas d'ambiance dans le stade, ça permet un petit peu de réveiller les supporters et peut-être les spectateurs, des fois, du coup. S'il y a de l'ambiance, ça ne sert à rien
de
mettre ces musiques-là.
Un vrai coup de gueule de la part.
Je suis chafouin.
Coraline n'est pas contente. Est-ce que Corentin, lui, est un petit peu plus content dans ses tops et ses flops?
Oui, moi je suis très content. Alors on va parler badminton, on en avait parlé lors d'une chronique les semaines précédentes. Et là on va parler des championnats d'Europe par équipe qui se jouaient en Pologne et la France qui a réussi à se hisser en finale. C'est seulement la deuxième fois de son histoire. Alors la marche a été un petit peu trop haute pour les tricolores, ils se sont inclinés 3-0 lors de défaite face au Danemark. Mais ça montre quand même le bon travail réalisé à l'approche des Jeux. Même si les chances de médaille, on va être optimiste, mais... ça risque d'être compliqué parce que là, c'était que les championnats d'Europe et les grandes nations mondiales sont plutôt situées en Asie avec notamment la Chine et les Philippines qui sont souvent en haut de l'affiche. Donc, on croise les doigts pour nos Français qui se sublimeront peut-être pendant les JO. Mais en tout cas, très belle performance à saluer pour les Bleus.
Et votre flop ?
Et pour le flop, du coup, on va parler de l'Olympique de Marseille qui est en train de couler. Une saison catastrophe avec hier une nouvelle défaite des Marseillais à Brest. Les Brestois réduits à 10 contre 11. Alors l'OM est une des pires équipes à l'extérieur de notre bonne vieille Ligue des Talents, comme on aime l'appeler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le talent le cherche en ce moment à Marseille, que ce soit chez les dirigeants qui font des mauvaises décisions, qui font des sorties lunaires dans les médias, les joueurs qui n'arrivent pas à mettre un pied devant l'autre, ou encore le coach Gennaro Gattuso qui semble perdu, dépassé par la situation. Ça nous rappelle un petit peu Laurent Blanc, début de saison à Lyon, où quand on lui demandait qu'est-ce qu'il faudrait changer à Lyon, et qui répondait le coach. Ben voilà, Gattuso, c'est à peu près la même ambiance à Marseille. Alors, on va pas refaire l'histoire, mais l'OM a terminé 3e la saison dernière, avec un style de jeu qui était défini, un coach qui faisait bosser les joueurs, peut-être même un peu trop au goût de certains. Des joueurs ont un peu milité pour son départ, ou en tout cas, n'étaient plus en phase avec l'entraîneur. Celui-ci usé a démissionné, et puis ben, les catastrophes se sont enchaînées, avec Marcelino qui arrivait, remplacé par Gattuso. Mais bon, il paraît que tous les malheurs de l'OM sont liés à cause de l'argent à l'argent du Paris Saint-Germain. Donc voilà, méchant Paris Saint-Germain qui a fait de l'OM la 11e équipe de Ligue 1.
J'ai l'impression que ça devient un petit peu un sketch quand même, cet Olympique de Marseille quand même.
Ouais, c'est un sketch qui en plus s'arrange pas parce que du coup le départ de Gattuso a été acté, il a été annoncé et puis apparemment, selon plusieurs médias dont l'équipe, ça serait Jean-Louis Gasset qui viendrait prendre la suite. Donc Jean-Louis Gasset, qu'on rappelle, qui a été viré, qui a démissionné, mais qui a été poussé vers la sortie de son poste de sélectionneur de la Côte d'Ivoire en pleine canne, et où la Côte d'Ivoire était en pleine descente aux enfers, et avec le départ de ce dernier, a réussi à remporter la compétition. Donc franchement, est-ce qu'on ne se dirige pas vers une nouvelle erreur de casting du côté de l'OM? Ça fait un peu peur.
Jean-Louis Gasset, qui sur l'OM, qui a été nommé aujourd'hui, et qui sait... En gros, il sait qu'il va partir à la fin de la saison.
Oui, je pense qu'il n'a pas trop de doutes, mais il se dit en plus qu'il a moyen d'avoir quelques mois.
Jean-Louis Gasset, 70 ans, Ghislain Printemps, 62 ans, c'est bien, c'est un petit coup de frais à l'OM, c'est pas mal.
Un petit coup de frais, ouais. Ils n'ont pas eu la réforme de retraite.
Mais c'est dommage, il aurait peut-être pu laisser Gattuso persister dans ses choix et le laisser le conforter. Maintenant, dès qu'il y a un entraîneur qui ne va pas, hop, c'est la porte.
Ouais. Je pense que Gattuso était, de mon avis, une erreur de casting dès le début. Et je pense que si l'OM avait laissé Gattuso, l'OM aurait pu s'inquiéter du maintien. Parce que, sincèrement, l'OM est 11e, comme l'a dit Corentin. J'avoue que j'ai plus le classement exactement en tête. En tout cas, juste derrière l'OM, il y a 3 points entre l'équipe qui est juste derrière l'OM, donc qui me semble est Strasbourg, et Nantes, qui est le premier relégable. Voilà. Donc en fait, si l'OM continue à descendre, ils vont vite être dans le lot des équipes qui sont juste derrière elles, mais vraiment juste, et qui se jouent en fait toutes pour la relégation, dont le TFC. On va parler tout à l'heure.
Évidemment, on va en parler tout à l'heure. Merci beaucoup, Corentin, pour ces top et flop. Erwan, à vous le tour. Bah, à vous le bâton.
Voilà. Moi, d'abord, pour un top, je voulais parler des petites équipes au rugby. Parce que voilà, depuis la Coupe du Monde, j'en avais pas assez parlé. Et notamment, je voulais reparler du Portugal. Ah. Vous avez sûrement suivi les très beaux matchs et même l'exploit contre les Fidji à l'occasion de leur dernier match de poule, et même du dernier match de poule de la Coupe du Monde 2023. Alors effectivement, on s'en rappelle peut-être plus trop parce que toutes les histoires durant les phases finales ont monopolisé l'attention, et notamment les critiques envers l'arbitrage, la blessure de Dupont et voilà, les Anglais qui jouent pas bien et les Sud-Africains qui jouent pas bien non plus. Mais le Portugal, ils sont toujours là, ils continuent à faire quelques performances. Alors dans un premier temps, ils ont perdu contre la Belgique en revenant sur le rugby européen. Alors là, ils sont tombés d'assez haut, mais ils se sont remis en selle très rapidement avec une grosse victoire contre la Pologne. Alors certes, la Pologne, c'est une équipe d'un niveau qui est quand même très très faible, mais c'est une équipe qui était supposément au même niveau que la Belgique. Donc ça permet de se rendre compte que vraiment on est sur une remise en question et qu'on remet les un pied devant l'autre. Et ensuite, il y avait un très gros choc qui s'annonçait puisque c'était un match contre la Roumanie. Donc la Roumanie, c'est une autre équipe mondialiste, c'est un peu connu comme l'équipe historique derrière celle du Six Nations, puisque la Géorgie, c'est quand même une équipe qui arrivait récemment sur le devant de la scène. Et donc le Portugal devait se déplacer en Roumanie à Bucarest, et il avait peur de revenir avec un score qui lui aurait fait peut-être un peu mal dans les esprits et au classement de ce Rugby Europe Championship, qui est l'équivalent du Six Nations B, même si maintenant il y a 8 nations. Et au final... ça a été un carton plein totalement pour le Portugal. Ils ont gagné 49-24, donc avec le bonus offensif en Roumanie. Ça a été un match exceptionnel qu'on pouvait suivre sur Rugby Europe TV, pour ne pas leur faire de pub, mais bon, c'est gratuit.
C'est compliqué
donc, si jamais vous voulez, c'est gratuit et ça ne rémunère personne à part les fédérations. Donc voilà, si jamais vous voulez les regarder, franchement, il y a des très beaux matchs à regarder. Et donc ce 24-49, c'est un match absolument sensationnel, surtout du point de vue portugais, même si les Roumains ont essayé de mettre un peu de jeu et de ne pas jouer que dans le physique, alors qu'on est collé surtout dans ce registre. Donc il y a eu pas moins de 1, 2, 3, 4, 5, 6 essais.
Apprenez à compter avec Erwan.
Voilà, effectivement, je donne aussi des cours les mercredis après-midi. Donc il y a eu pas moins de 6 essais côté portugais, avec deux magnifiques essais vraiment de l'ailier Lucas Martins, qui jouait seulement sa deuxième sélection. Et si jamais ce nom vous dit quelque chose, bah c'est normal, c'est parce que c'est le frère de Nicolas Martins qui joue à Angoulême et qui est attendu en top 14 dès la saison prochaine, après son excellent mondial avec le Portugal. Et d'ailleurs, Nicolas Martins a marqué le dernier essai du Portugal à la 80e minute, avec pareil une folle chevaucher dans la défense.
Ah, ça on les aime, c'est fou.
Et je vous invite vraiment, si vous avez envie d'aller le voir, mais faites-moi confiance. Le premier essai de Lucas Martins pour le Portugal est sincèrement l'un des plus beaux essais qu'on ait vu ces dernières années, et je pense que c'est possiblement, même déjà pour les prochains World Rugby Awards, le plus bel essai de l'année.
Ah, déjà.
Il y a vraiment tout. Il y a des offloads, il y a des tapettes volées. Quand je dis des tapettes, hein, je parle avec la main, bien évidemment, parce que je vois Jonathan faire les gros yeux.
Je ne vois pas ce que c'est.
Donc voilà, il y a de tout. Il y a des transversales au pied, il y a des offloads, des courses au milieu de la défense. C'est absolument incroyable. Et voilà, c'était un match sensationnel dont je vous invite à voir le replay.
David Gérard à la tête d'une des nations, évidemment.
Il faisait les mêmes gros yeux que vous dans les gradins.
Ben, il a été surpris. Il s'attendait pas à faire un match comme ça.
Ah, je pense que ça ne s'attendait pas à prendre une pareille déconvenue. Peut-être perdre contre le Portugal.
Mais aussi largement.
Avec
Portugal dans lequel il était pendant la Coupe du Monde.
Effectivement.
Et là, il était avec la Roumanie.
Voilà. Comme quoi, le Portugal suit sa route et la Roumanie suit sa route aussi.
Mais dans notre sens.
Voilà, ils se sont croisés sur l'autoroute.
Et votre flop ? Qu'est-ce qui vous a déplu ?
Pour mon flop, ce sera la défense de Toulouse. Alors, sur ça, j'aurais beaucoup moins de choses à dire parce que, tout ça, il n'y avait pas eu grand-chose. Donc, quand il n'y a pas grand-chose à observer, il n'y a pas grand-chose à dire. Et pour le cas de Toulouse, en défense, c'est exactement l'attitude qu'a adopté le staff. Donc, si vous n'avez pas vu le match contre Yona, il y a eu 14 essais de mémoire. Score final 61-34 pour le Stade Toulousain. Et une très très mauvaise défense des deux côtés, mais aussi, vraiment, j'aime presque envie de dire, surtout du côté toulousain au vu des joueurs qui étaient alignés, symbole de cette mauvaise prestation défensive, parce que j'ai pas forcément des stats à vous donner, elles n'ont pas été divulguées, mais voilà, Alban Placine est sorti dès la mi-temps, alors quand votre troisième ligne, supposément bon plaqueur et censé emmener la défense, sort dès la mi-temps, Bon,
c'est généralement mauvais signe.
C'est assez mauvais signe. Et du coup, le Mathis Lebel s'est exprimé après le match auprès donc, du middle et avait dit notamment que les entraîneurs ne leur avaient même pas fait la morale. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tellement honte de leur prestation défensive en rentrant dans le vestiaire que leur staff leur a dit si jamais vous voulez pas de nouveau ressentir ça et que vous voulez pas de nouveau manquer de respect aux entraîneurs de la défense qui se lèvent tous les matins pour venir vous apprendre à bien défendre, et bah faites mieux la prochaine fois. Et il suffit de voir si le Stade Toulousain arrivera à faire mieux.
Eh bien, ce sera une affaire à suivre. Merci beaucoup, messieurs, dames. Mention spéciale pour le waterpolo aussi. On n'en a pas parlé, mais le waterpolo qui était aux Mondiaux à Doha. Les Bleus qui ont fait un beau parcours. Hein. Ils se sont ici jusqu'en demi-finale de la compétition. C'est plutôt de bon augure avant les JO. Et évidemment, on parlera de waterpolo dans l'émission.
Ah bah oui, à les JO.
On lui demandera de sortir de l'eau quand même. Mais pour les micros, ça sera plus simple.
Ouais, plus pratique.
Plus pratique aussi. Plus, voilà. Merci beaucoup.
Mais de rien.
Avec plaisir même.
Avec plaisir, mais c'est parfait. Justement, tout de suite, un point sur l'actualité avec Corinne Saint-Félix. On commence par du foot et des violets qui reprennent pied.
Les violets ont réussi un petit exploit à Monaco hier. Après avoir perdu 1-2 contre Nantes, les Toulousains ont brillé sur coup franc. Une victoire qui fait du bien en Ligue 1 face au numéro 3 du championnat et qui remettra peut-être le TFC sur le chemin de la réussite dans cette compétition.
En revanche, on revient sur le résultat en Ligue Europa qui n'a pas battu le Benfica Lisbonne la semaine dernière.
Le club a été battu sur le fil par le Benfica Lisbonne jeudi 15 février 1-2. Alors que la soirée semblait compromise, Mikel Dessler égalise à l'entame du dernier quart d'heure. Malheureusement, au bout du temps additionnel, Angel Di Maria marque un deuxième pénalty après une faute de Christian Mawissa dans sa surface. Le TFC garde ses chances avant le match retour au Stadium. Ce sera jeudi à 18h45.
Allez, toujours en foot en Ligue 2, la soirée est à oublier pour le Pau FC.
L'entraîneur Nicolas Hussaï avait présenté cette rencontre de la 25e journée de Ligue 2 face à Quévilly-Rouen comme un virage important dans sa saison. En s'inclinant face au relégable Quévilly-Rouen, vendredi soir à Noustecamp 0-2, le Pau FC a confirmé ses difficultés du moment et a même montré un visage assez inquiétant.
En rugby, cette fois-ci, tout est dit. Victoire du Stade Toulousain en top 14.
Le Stade, deuxième, n'a fait qu'une bouchée, 61-34 de l'Oyonnax, 14e samedi. Au final, 14 essais ont été marqués. La défense des Rouges et Noirs pourrait être moins poreuse.
Oui, on l'a vu à l'instant avec Erwan. En basket, cette fois-ci, les Taureaux ont créé l'exploit.
Les fans ont eu la joie de voir leur équipe se défaire 87-77 de la très belle équipe de Chartres, 3e à la toute dernière seconde au Grand Palais.
Et en hippisme maintenant, Clément Lefebvre s'adjuge le Grand Cross de Pau.
Le gagnant de cette édition 2024 du Grand Cross de Pau est Hip Hop Conti, monté par Clément Lefebvre. Le duo gagnant s'était déjà imposé l'année dernière pour cette épreuve qui s'est déroulée lors du meeting d'hiver à l'Hippodrome de Pau hier. Une course de 6300 mètres et 30 obstacles à franchir. Il n'y a eu aucune chute cette année. Les 7 jockeys ont tous terminé la course. L'an passé, la moitié des chevaux n'avaient pas pu aller au bout. Le jockey Clément Lefebvre a remporté 3 fois le Grand Cross sans cette participation.
Et si vous n'êtes pas totalement au point sur le cheval, je vous invite à écouter en podcast la dernière émission d'Esprit Sport où on a parlé des épreuves de cheval, donc les épreuves équestres. Lors des JO, on en a parlé avec Anne-Françoise Marie, c'est à réécouter évidemment. Tout de suite, nouvel entretien, nouveau sport, on va parler de hockey.
Esprit Sport, le face-à-face.
Aujourd'hui, en face à face, nous recevons Sophie Raffi, membre de la commission mixité du CNOSF pour la Fédération française de hockey. Elle est aussi élue à la Fédération française de hockey et présidente déléguée du TUC et de la section hockey sur gazon. Bonjour. Alors, on va parler du hockey sur gazon. En commençant, les origines du hockey sur gazon, comment c'est arrivé jusqu'à chez nous ?
Oh, chez nous, ça fait quelques années que le hockey, alors, il était plutôt en salle avant d'être sur gazon. Même dans les années 50, en fait, il y avait plusieurs clubs universitaires qui performaient sur Toulouse avec des équipes pouvant même aller jusqu'à 50 filles sur Toulouse en salle. Et bon, petit à petit, il y a eu une diminution de cet engouement vers ce sport, bien que au sein du TUC hockey, on a eu nos filles en 2014 qui étaient même au championnat élite en salle. Mais voilà, donc le but était de revenir vers le hockey sur gazon parce que c'est le sport de prédilection du hockey, même si certains sont fervents et veulent maintenir le hockey en salle, ce que je comprends. Mais voilà, au niveau du TUC, on voulait repartir vers le hockey sur gazon et c'est l'obtention d'un terrain synthétique il y a maintenant 4-5 ans qui nous a permis de progresser, d'augmenter nos nombres de licenciés et de performer dans cette discipline.
Quand on parle de hockey sur gazon, c'est pas le hockey sur de l'herbe qui pousse dans le jardin, c'est du synthétique, pour un petit peu replacer tout ça. Quand on pense au hockey sur gazon, on pense aussi au hockey sur glace. Pour ceux qui ne voient pas du tout les différences, quelles sont-elles ces différences? Peut-être la taille du terrain.
Alors déjà, nous, le hockey sur gazon se joue à 11 contre 11 sur un petit terrain de foot avec des cages qui sont plutôt de la taille d'un terrain, des cages de hand pour être un peu plus précis. Après, les crosses ne sont pas les mêmes. Nous, c'est des crosses, alors maintenant en graphite, peu importe la structure, ou en carbone, mais qui ont une tête beaucoup plus courte que celle du hockey sur glace. Ça se joue avec une balle qui a la consistance d'une balle de tennis avec l'intérieur qui peut être considéré comme une balle de golf. Donc, ce n'est pas un palais. Donc, voilà, déjà, ça, c'est les différences majeures. Et après, il n'y a que le gardien qui, nous, est équipé comme un gardien de hockey sur glace. Mais les autres joueurs ne portent que protège tibia et protège dents.
Pour éviter de prendre des coups de crosse, évidemment. Voilà. Ça semble assez accessible au niveau des équipements. Basket, tenue de sport, les protections et une crosse. Quelles sont les qualités peut-être pour commencer un jour le hockey sur gazon?
Les qualités, je pense qu'il faut être quand même très physique parce qu'il n'y a quand même y a pas de hors-jeu contrairement au foot. Donc la balle est toujours en jeu, donc c'est un sport qui va assez vite hein, mais qui demande de l'agilité parce que il y a aussi cette crosse. Hein, donc il faut être de la technicité, de la motricité et de l'endurance tout en étant rapide en même temps.
Vitesse, agilité, technique, c'est presque le sport parfait au final.
A priori, oui.
Et on n'est pas sur la glace, donc on n'a pas froid, on n'a pas... Enfin, les joueurs...
On peut se mouiller parce que c'est en extérieur, comme tout autre sport d'équipe d'extérieur, mais bon, ça, c'est pas grave, ça.
Les épreuves de hockey, il y a des championnats, on va se rapprocher un petit peu des JO, on va évidemment les voir cet été, on verra les chances de médailles après. Pour tout ce qui est des JO, comment ça se passe pour accéder, pour être qualifié pour les JO? Est-ce qu'il faut faire un tournoi qualificatif? Est-ce qu'il faut on participe simplement parce qu'on est en France?
Alors non. Alors déjà, il faut être parmi les 12 premiers au niveau classement mondial pour pouvoir y participer, parce que c'est les 12 meilleurs qui participent. Sauf pour nos filles, on a eu une exception cette année dans la mesure où les Jeux de Paris se veulent en totale mixité. Il fallait qu'elles soient au minimum au rang de la 25e place pour pouvoir y participer, ce qu'elles ont été il y a de ça un an et demi maintenant. Mmh. Et du coup, mais même actuellement, elles sont même 20e et elles n'arrêtent pas de progresser. Donc ça montre que cet élan et cette volonté de la fédération d'impliquer notre équipe de filles, on y a mis plus de budget bien sûr, on essaye de faire attention aussi à ce qu'il y ait un peu moins de différence entre nos deux collectifs hommes et femmes. On a encore du travail, on le sait, mais en tout cas voilà, on tend vers une amélioration de cette et une diminution des différences entre les deux collectifs. Mais voilà, c'est la première fois depuis l'existence des Jeux et du hockey dans les Jeux, c'est-à-dire en 1908, qu'on aura nos deux collectifs hommes et femmes qui vont participer à ces Jeux de Paris.
Est-ce qu'à terme on peut voir une équipe mixte?
c'est pas totalement le but actuellement au niveau de la fédération internationale. Ça peut, on peut jouer très bien en équipe mixte. Alors quand on fait, on a une autre discipline en gazon qui est le rugby, le hockey à 7. Et donc du coup, il y a des, totalement des équipes mixtes à 7. Au niveau régional, on peut aussi jouer à 11 avec des filles dans les équipes masculines sans problème. Mais dès qu'on passe au niveau national, oui. Voilà, on préfère malgré tout ne pas qu'il y ait cette mixité de par la puissance aussi qui peut être parfois différente entre les hommes et les femmes, bien que cette différence peut s'amenuiser, j'en ai conscience.
Les épreuves de hockey sur gazon au JO, ça va être comme un tournoi avec des poules et des phases finales.
Il y a deux poules, et donc exactement comme un tournoi. Et donc il y a deux poules de 12 équipes hommes et de 12 équipes femmes. Et les matchs se jouent en carton de 15 minutes chaque carton.
Voilà, donc en plus, c'est pas plus long que... C'est pas énormément long. Donc vraiment, on a de quoi s'intéresser au hockey sur gazon. Les JO, on présume que vous attendez qu'il y ait une démonstration d'amour pour cette équipe de France qui va participer. Est-ce que vous pensez que les JO vont mettre en lumière le hockey sur gazon? Est-ce que vous vous attendez à un intéressement grandissant des Français pour le hockey sur gazon?
Alors, c'est ce qu'on espère, bien sûr, et que derrière...
Parce que ça a tout pour plaire, c'est visuellement beau,
derrière,
c'est
derrière, on a des retombées, et c'est un des sports les plus regardés au niveau mondial aussi. C'est le troisième sport le plus pratiqué au monde, et le quatrième ou cinquième sport le plus regardé lors de matchs et de compétitions. Donc, on a de quoi faire, et la route est... On a un gros potentiel en France pour pouvoir arriver à performer, à augmenter notre nombre de licenciés, mais on espère bien sûr que ces JO vont mettre en lumière notre sport, surtout dans le stade qui est mythique de Yves du Manoir, qui est le stade aussi des premiers Jeux de Paris en 1904.
Est-ce que vous avez un nombre de licenciés en France en tête, à peu près une fourchette?
Oui, on est à peu près à 11 500 licenciés. J'ai peut-être pas les derniers chiffres totalement en tête, mais c'est dans ces zones. Oui.
Plus de 10 000, donc
mais
on
c'est
espère...
Pas c'est suffisant.
Mais c'est pas suffisant. Évidemment, on pense que pour avoir un niveau compétitif, pour pouvoir peut-être rivaliser avec des grandes nations, il faudra améliorer et avoir plus de licenciés. Justement, cette compétition avec les autres nations du hockey sur gazon, où est-ce qu'on se situe?
Alors,
plutôt en haut du podium, plutôt au milieu.
Les garçons sont à la 12e place.
Les filles 20e, on a vu.
Les filles 20e. Et même les moins de 21 ont fini vice-champion du monde au mois de décembre dernier. Et ça fait plusieurs fois même qu'ils sont dans le carré final. On a même été dans le carré final aussi chez les garçons aussi dans les derniers championnats du monde, pas ceux-là, ceux-là d'avant. Donc voilà, la progression est là. Les résultats y sont. Maintenant, bon, on espère toujours le mieux pour nos deux collectifs.
Donc, les deux collectifs qui montent en pression, qui montent en qualité. Une chance de médaille, peut-être? Est-ce qu'on se mouille?
Je ne me mouillerai pas. Je laisserai les sportifs, en tout cas la DTN et les responsables sportifs se mouiller plus que moi. Bien sûr, ça serait la cerise sur le gâteau, ça c'est évident.
On espère une belle médaille d'or autour du cou des sportifs français. En tant que membre de la commission mixité du CNOSF, qu'est-ce qui est mis en place, qu'est-ce qui va être mis en place pour favoriser justement cette mixité pour la Fédération de hockey?
Alors, pour la Fédération de hockey, il y a ce parcours de formation des dirigeantes, parce que c'est important. Il y a le parcours qu'on appelle au niveau du CNOSF les 300 dirigeantes. Donc, ça fait la deuxième année que cette commission a lancé ce parcours à l'initiative du CNOSF, donc de faire ce parcours des 300 dirigeantes. Et on a quelques personnes qui y participent, parce qu'il faut un peu plus de mixité à tous les niveaux, que ce soit donc au niveau des joueuses, au niveau des arbitres, des officiels, au niveau des dirigeantes et au niveau des entraîneurs aussi. Parce que voilà.
Il y a un problème, il n'y a pas assez d'entraîneurs féminins au sein du hockey?
Jamais assez.
Il en faudrait plus et voilà. Puis on espère. Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme qui a la tête de la sélection féminine?
C'est un homme qui est à la sélection.
Preuve que...
Mais c'est une femme qui est présidente de la Fédération française de hockey.
Et bien voilà, comme quoi la mixité
première
arrive.
Première femme depuis la création de la Fédération.
Historique.
Exactement.
qu'est-ce qu'on peut espérer donc après ces JO, après cette mise en lumière du hockey sur gazon pour la France ?
Qu'il y ait une retombée dans nos clubs pour que
locaux,
justement
en France et surtout à Toulouse, peut-être au TUC même.
Tout à fait, tout à fait. On est en progression constante depuis l'obtention du terrain. On est actuellement à 160 licenciés à peu près et on espère augmenter encore et passer cette barre des 200. Ça serait quelque chose de
que pour tous ceux pour ceux qui veulent soit essayer, soit oui. Même tout simplement voir du hockey sur gazon. Comment on fait à Toulouse et en région pour pouvoir en voir ? Parce qu'on n'en voit pas à la télé, on n'en voit nulle part, sauf aller sur les terrains. Comment on fait pour aller voir simplement du hockey ?
Alors, le plus simple, c'est de suivre nos réseaux sociaux sur TUC Hockey sur Gazon pour pouvoir savoir quand est-ce qu'auront lieu nos prochains matchs. Là, on est en période d'hiver, donc ça se joue en salle. Et comme nous ne jouons pas en salle parce qu'on n'a pas accès à un gymnase. Donc, on va reprendre là, les premiers matchs le 3 mars. Ça va être le match des filles, des seniors dames qui vont jouer en National 1. Qui jouent en National 1 puisqu'elles ont été championnes de France en National 2 l'année dernière. Donc elles sont montées en National 1 et elles vont rencontrer l'équipe qui est actuellement première au classement de ce championnat. Donc ça peut être intéressant de venir supporter, regarder, encourager nos seniors dames à 15h sur le terrain de hockey qui se situe 13 chemin de Limérac à Toulouse.
Voilà, tous les réseaux sociaux du TUC, évidemment, Facebook, Instagram, pour pouvoir suivre. Un site internet aussi ?
Oui, bien sûr, c'est Toulouse Hockey.
Voilà. Vous pouvez retrouver...
Après, il y a plusieurs clubs dans la région, parce qu'il n'y a pas que nous. Je vais aussi en citer plusieurs. Donc, il y a l'Île Jourdain aussi, qui est un club qui est aussi le club où il y a le nombre d'illustrés.
Le concurrent, peut-être.
Concurrent, dans certaines façons.
Le derby.
Et puis, oui, c'est souvent des derbies entre nous deux. Mais c'est aussi un club qui est créé depuis une dizaine d'années et qui progresse aussi avec une équipe senior, une équipe hommes, dames, des jeunes comme nous, avec une école de hockey exactement comme nous. Et après, on essaye d'arriver à essayer d'augmenter le nombre de clubs sur la région. Il n'y en a que 6 actuellement et ce n'est pas suffisant.
Ah, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un qui hésite, qui se dit que peut-être le hockey c'est trop dur, parce qu'on a parlé de vitesse, d'agilité, de technique, de physique. Ceux qui hésitent à venir, à faire ce premier pas pour venir vous voir ?
Déjà venir essayer. Nous, tous les samedis matins de 10h à midi sur le terrain de hockey, donc à l'adresse que je vous ai indiquée, s'il y a un court loisir. Donc déjà, c'est pas de la compétition et il y a des personnes qui n'avaient jamais touché une crosse et qui maintenant sont passionnées et c'est vrai. Donc il y a eu des mamans aussi ou des papas, on leur a dit plutôt que d'attendre sur le bord du terrain pendant que vos enfants avaient cours de hockey, et ils ont pris une crosse et petit à petit il y a un groupe d'à peu près une vingtaine de personnes qui pratiquent cette activité tous les samedis matins.
Voilà, donc on espère que ces JO vont mettre en avant, vont mettre en lumière le hockey sur gazon qui en a besoin, tant en termes de licenciés qu'en termes de mixité. Merci beaucoup Sophie Raffi d'avoir été avec nous.
Avec grand plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli et de m'avoir fait parler de ce sport que je n'ai jamais pratiqué.
Vous n'avez jamais fait de hockey sur gazon ? Quand est-ce qu'on pourra peut-être faire un entretien en direct en faisant du hockey sur gazon ensemble ?
Vous venez, on essaiera sur le terrain, il n'y a pas de problème, vous serez
bien
accueillis.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, Erwan, Corentin, Coraline, basket, dans 15 jours, c'est début mars, hockey sur gazon avec Sophie Raffi.
Eh bien écoutez, alors, fun fact, je vais aller voir du hockey sur gazon pour les JO.
C'est le samedi à 15h.
Donc voilà.
Si
oui.
Jamais, voilà. Donc, on
quoi, les JO ou le hockey sur gazon ?
Le hockey sur gazon féminin dont Sophie Raffi vient nous parler, c'est le samedi à 15h, et puis aussi pour les JO, on suivra ça avec attention.
Voilà, ça a l'air cardio, on a l'air de courir.
On en a parlé, vitesse, agilité, technique, beaucoup de choses. Bon, l'équipe féminine aura peut-être pas de médaille, ça va être compliqué pour l'équipe de France, même si elle continue de performer de plus en plus, comme on l'a entendu. Et puis le masculin, on verra ça avec attention. Voilà, maintenant on est prêt, on est paré pour poursuivre ce hockey. La semaine prochaine, ce sera un autre entretien. Tout de suite, session karaoké. À suivre dans l'émission de sport, dans cet esprit sport de cette 26e émission. Session karaoké avec, faut appuyer Coraline sur la musique, voilà, sinon ça va jamais marcher. Réalisation à l'américaine, hein. Adèle, Someone Like You. Après on va parler avec Gabin de sport de combat. Et après on fera un débat. Tout ça, c'est dans les quelques prochaines minutes, juste après Adèle.
That you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best.
On essaye de négocier pour que l'émission soit filmée en direct sur Facebook ou sur n'importe quel réseau social pour que vous puissiez vous aussi profiter de cet instant karaoké que nous a fait profiter Coraline. Voilà, c'était vraiment beau à écouter. Alors peut-être pas à voir, mais bon, à écouter en tout cas. Merci Coraline pour cette...
Mais de rien. En plus, vous avez la chance que nous soyons séparés par une vitre. Ouais, parce que je suis dans la régie et vous dans le studio. Donc je suis sûr que vous m'entendez quasiment pas.
Ouais, si, là on a eu quelques...
On profite.
Quelques... Oui, profiter, hein, peut-être réviser le terme.
Soyez gentil, s'il vous plaît.
Voilà, on espère que vous aussi vous avez profité. Dans quelques minutes, on va débattre. Est-ce que le TFC peut-il créer l'exploit en Coupe d'Europe? Mais avant ça, on parlait MMA avec Gabem.
Esprit Sport, la chronique.
On en a déjà parlé plus tôt dans l'année du MMA. Alors non, on va pas parler assurance. Et d'ailleurs, c'est pas moi qui vais en parler, c'est Gabem qui nous fait sa chronique. Let's get it.
Le MMA, qui signifie Mixed Martial Arts, est un sport qui est un mélange de plusieurs sports de combat, comme les sports de combat debout, comme la boxe, karaté, muay thai. Il y a aussi les sports de combat de type clinch, des combats rapprochés, comme le judo ou la lutte. Et enfin, il y a les sports de combat au sol, le grappling, jiu-jitsu brésilien et le sambo.
Du coup, on voit qu'il y a beaucoup de sports qui sont rattachés à ces sports, Mixed Martial Arts. Est-ce que tous les coups sont permis ?
Dans le MMA, on a le droit à tous les coups, sauf frapper son adversaire dans les parties génitales, tirer les cheveux ou mordre, mettre les doigts dans les yeux ou chercher à crever l'œil d'un adversaire. Les coups à la gorge, à la nuque, à la colonne, aux reins et aux articulations sont également interdits. En MMA, on parle de combat et non de match. Un combat de MMA se termine soit à la fin du temps imparti, ou soit si le combattant abandonne suite à une soumission, ou alors si l'arbitre décide d'arrêter le combat car le combattant n'est plus apte à combattre. Un combat s'effectue en 3 rounds, sauf si le combat est le main event, qui est le combat avec les meilleurs combattants de la carte.
Alors, du coup, on voit qu'il y a des combats qui sont organisés. Est-ce que c'est comme dans les autres sports? Est-ce qu'il y a des championnats, des organisations?
Dans le MMA, il existe plusieurs organisations professionnelles. L'UFC, considérée comme la Ligue des Champions, est la plus grande et la plus connue des organisations d'arts martiaux mixtes. Le PFL, qui elle aussi contient de nombreux combattants très bons et très connus, comme Cédric Doumbé, qui s'est fait connaître nationalement et mondialement suite à sa victoire contre Jordan Zebo, avec son fameux Jordan t'es mort qu'il criait juste avant le combat. Après, il existe plein d'autres organisations professionnelles, mais qui sont elles moins reconnues du grand public, par exemple le Bellator, le KSW ou encore l'Hexagone.
Alors pour ce qui est de la France particulièrement, comment c'est organisé? Est-ce que c'est sous la régie d'une fédération peut-être?
La Fédération française de MMA créée en 2008 et elle rattachée à la Fédération de boxe, elle lui aura fallu 12 ans pour réussir à légaliser le MMA en France. 4 ans après, le MMA a connu un très fort succès, notamment grâce à Cédric Doumbé ou encore Benoît Saint-Denis. En ce moment, si vous suivez les actualités, vous avez forcément dû voir passer le combat Cédric Doumbé-Baki. Ce combat est l'exemple même de la proportion que prend le MMA en France. Pour ce combat, l'Accor Arena, qui comporte 20 300 places, a été rempli seulement quelques heures après.
On a vu des combats mondiaux, on a vu un combat qui se passe en France, mais en région, est-ce qu'on a des combattants?
Dans notre région, on a nous, Quentin Arola, combattant toulousain qui a combattu au MMAGP ou encore dans la prestigieuse organisation L'Hexagone, qui, si vous suivez les réseaux sociaux, détient le célèbre influenceur Ibra TV et l'ancien combattant du Pride, qui est l'ancêtre de l'UFC, Grégory Bouchalegem, alias Greg MMA sur YouTube. Maintenant, on peut se poser comme question, est-ce que le MMA va-t-il devenir le sport préféré des Français? Et aussi, pourquoi les Français sont-ils attirés par le MMA? C'est ce que nous allons voir après le développement du MMA au cours des années.
Voilà, ça donne vachement plus envie de se battre sur du Rocky que sur du Adèle, Coraline.
Alors, en effet, non, mais oui, on est d'accord que Adèle, on se bat pas dessus.
Non,
on
ne
se bat pas tout court d'ailleurs.
On ne se bat pas. Bah,
à part en cage.
On a parlé. Quand c'est organisé, quand c'est encadré.
Quand est-ce qu'on a parlé du MMA? C'était lors de l'entretien où on a parlé de boxe française. Voilà. Donc, je vous invite là aussi à aller l'écouter en podcast. C'était au tout début de l'année. Vous pouvez l'écouter sur Google Podcast notamment. Voilà, le MMA, on essaye de suivre un petit peu tout ça de loin. On verra s'il y a quelqu'un en région qui performera. Et puis, évidemment, on parlera un petit peu plus en profondeur de cette discipline. Tout de suite, on va aborder un autre combat, celui du TFC. La petite cloche qui signifie qu'on va débattre sur ce sujet. Il y a eu une défaite du TFC, une petite défaite du TFC au Portugal face au Benfica Lisbonne. Mais le TFC peut-il créer l'exploit en Coupe d'Europe à domicile? Deuxième cloche, ce qui veut dire que, Corentin, on vous écoute. Est-ce que le TFC peut créer l'exploit face au Benfica, jeudi?
Oui. Moi, j'y crois. Je fais partie des optimistes, ouais, pour ce combat que va devoir mener le TFC. Alors, bon, ils ont quand même été dominés, mais je trouve qu'ils ont bien résisté lors du match aller. Ils ont fait bloc, ils ont été généreux. Et puis, on a vu quand même qu'il y avait un TFC qui avait deux visages cette saison. Il y a le TEF des grands soirs, le match contre Liverpool, ou les matchs qui peuvent être importants dans la course au maintien. On a vu le match face à Monaco hier. Et puis, il y a le TEF aussi qui est capable de se prendre les pieds dans le tapis. Et je pense que le stadium va créer une atmosphère, va faire quelque chose pour que ce TFC-là soit le TEF des grands soirs. Et voilà, je pense que quand on voit ce qu'a fait le public en direct à Lisbonne et ce qu'ils ont proposé sur toute la saison, comme ambiance au TFC, ça va porter. Et à mon avis, le 12e homme va jouer. Et voilà, on espère que les Toulousains seront vraiment au rendez-vous.
Est-ce que vous serez au stade? Non, vous ne serez pas au stade, Corentin.
Je ne serai pas au stade.
À la télé?
À la télé.
Voilà. Merci beaucoup, Corentin. Est-ce que Erwan ou Coraline, d'ailleurs, vous choisissez qui ouvre la parole en premier, ou les deux en même temps. Est-ce que vous voyez le TFC, tout comme Corentin, montrer leur meilleur visage en Coupe d'Europe, Coraline?
Je vais laisser la parole à Erwan.
Ouais, nous, vraiment, on a senti que le foot, c'était pas.
C'est
là,
pas trop ça. Non, c'est pas trop ça. Après, mon avis personnel, on va le donner en 10 secondes. Ils ont réussi à créer l'exploit contre Liverpool. Pourquoi pas un peu plus? Voilà.
Ben voilà, pourquoi pas un peu plus?
10 secondes.
Voilà, c'est beau.
Ben c'est magnifique. Voilà, c'est ça tout va être comme dur. L'exploit que va faire le TFC jeudi.
Ça va être dur, Erwan, de repasser après Corentin, après Coraline, et avec un petit peu plus.
J'en ai des frissons, mais des frissons, j'en aurai aussi jeudi, parce que moi, je serai donc au stade pour voir le match, pas en tant que journaliste, pas en tribune, pas dans une simple tribune, parce que j'avoue que je serai dans le virage.
Ah, vous voilà. Serez Brice Taton ou Christophe Revon?
Brice, le virage. Ah. Brice.
Oui, c'est très bien.
Et donc voilà, je vais pas beaucoup voir le match, je pense, mais je vais avoir mal à la gorge en sortant et ça va compter. Et le but, c'est aussi d'encourager l'équipe. Voilà, le TFC peut le faire. Ils ont montré, donc, comme le disait très justement Corentin, sur le match aller, qui est tristement perdu parce que vraiment c'est sur une faute qui est complètement évitable à l'ultime minute. Et ils ont aussi montré contre Monaco avec beaucoup plus de réussite qu'ils étaient en mesure de gagner et surtout de combattre un peu le mauvais sort, parce que contre Monaco il y a eu ce but de l'égalisation 1-1 en début de deuxième période, il me semble, qui était vraiment pas de chance et qui rappelle un peu, alors c'est pas du tout le même but,
les deux mauvais buts travers du TFC
ouais, qui panique et qui offre des occasions qui sont certes malheureuses, malchanceuses, parce que vraiment le but à Monaco, c'est ça rebondit sur deux joueurs du TFC. Mais d'un côté, j'ai envie de dire que si on se mettait pas aussi en danger, si le TFC ne se mettait pas aussi en danger, bah cette malchance, ça serait pas provoquée. Et c'est un peu ce qui se passe donc sur les deux buts à Benfica, donc qui sont des pénalties, avec une main très malchanceuse de Costa qui voit son bras être
mais
bloqué au-dessus de notre
défenseur, qui peut être évité, clairement.
Qui peut être évité s'il n'y a pas de corner, en fait. Enfin, s'il n'y a pas de... Si, je ne sais plus si c'est un corner ou un coup franc. Mais en tout cas, s'il n'y a pas de coup de pied arrêté. Donc, c'est toujours la même chose. Le TFC concède beaucoup trop d'erreurs. Et Corentin disait très justement qu'il y a deux visages chez ce TFC, et moi je trouve souvent qu'il y a surtout deux périodes chez ce TFC, et le visage affronté en début de match est très rarement le même que celui qui est affiché en deuxième période, même pas en fin de match, en deuxième période. Et ça a encore été visible à Monaco, ça a été visible tellement de fois cette saison, contre Clermont, contre Le Havre, contre Lorient, très très souvent d'ailleurs contre des candidats au maintien. Et le TFC, il doit changer ça, et pour l'instant... Bah, ce mauvais visage en deuxième période, il n'a pas été trop trop visible en Coupe d'Europe.
On a vu.
Voilà, on espère qu'il le sera. Pas encore.
Je me suis étouffé. On a vu le TFC gagner à Monaco. On a vu le TFC tenir Brest. Face au gros, l'équipe arrive à se transcender, toujours avec quelques petites difficultés. On a vu Vincent Sierro, le capitaine de cette équipe toulousaine, qui a peut-être sorti son match référence. Face à Monaco, ouais, il a été très bon face à cette équipe, en espérant que ça continue, que Vincent Sierro continue de performer autant que ça. Mais ce double visage qui est assez inquiétant, on le revoit face à Nantes, où le TFC perd à domicile. On le voit une nouvelle fois face à Rouen en Coupe de France. On le voit face à Lens, toujours à domicile. Toulouse réussit bien à l'extérieur. A plus de mal à domicile, là c'est un match critique cette année, hein. C'est vraiment le match C'est presque le match qui peut sauver la saison du TFC, peut-être les relancer pour éviter la relégation. Est-ce que vous pensez que cette victoire au Stadium, si elle arrive, est-ce que vous pensez que ça peut relancer cette équipe du TFC en championnat ? On voit deux visages clairement du TFC.
Oui,
pas un DVD, vous pouvez...
Bien sûr. je me disais que peut-être Corentin voulait répondre. Mais pour dire très rapidement, oui, je pense qu'ils peuvent...
Ils ont gagné contre Liverpool à domicile, oui, ça clair. Les a pas aidés pour le reste de la saison.
Non, mais il y a vraiment le visage Coupe d'Europe. Il y a le visage des périodes, il y a le visage des bons et des mauvais matchs. Et il y a aussi le visage Coupe d'Europe et Ligue 1. Oui, le TFC est un peu atteint de schizophrénie cette saison. Mais voilà, faut pas trop lui en vouloir parce que pour l'instant, les objectifs sont plus ou moins respectés, à part en Coupe de France où ça a vraiment été très triste l'élimination. Le TFC remonte au classement en Ligue 1. Ils ont l'occasion.
Mais il n'est pas sauvé encore.
Oui, il n'est pas sauvé. Ah non, mais clairement, mais ça se jouera jusqu'à la fin. Et en Coupe d'Europe, c'est cette victoire qui va. La saison semble déjà réussie en Coupe d'Europe. Mais très clairement, si le TFC gagne, ne serait-ce que contre Benfica, même sans forcément.
Être qualifié,
voilà, ça aura été un rêve européen du début à la fin. Et donc, ça ne peut être que beau. Et puis surtout, on va leur demander de bien jouer et de faire honneur au maillot, parce que trop souvent le TFC a pas forcément bien joué, et surtout à la maison, comme vous l'avez dit.
À domicile, oui, il y a peut-être un stress, une ambiance qui les dépasse. Corentin, est-ce que cet effectif qui manque d'expérience sur la scène européenne peut faire mal au Benfica, qui eux par contre jouent souvent la Ligue des Champions et souvent des compétitions européennes d'ailleurs?
Bah, de toute façon, l'expérience, elle est à mettre au profit, en tout cas faveur du Benfica. Il y a des joueurs qui ont déjà gagné avec des champions dans cet effectif. C'est un club qui, l'an passé, a fait une belle campagne en Ligue des Champions aussi. Donc c'est sûr que aucun signe n'est en faveur du TFC maintenant. L'Europe, les Coupes d'Europe et ce genre de match, c'est aussi ce qui peut amener à quelque chose de... presque d'irrationnel, on a envie de dire le TFC qui est une équipe qui joue le maintien, et c'est un peu comme les parcours en Coupe de France où parfois on a des équipes qui jouent le maintien national qui vont aller faire des quarts, des demi en Coupe de France. C'est la magie de la Coupe et on espère que les Toulousains en seront illuminés pour ce match retour. Mais ouais, je pense que l'important, c'est de ne pas avoir de regrets pour eux. Après, même s'il y a une qualification, c'est pas ça qui va assurer le maintien, et je pense que ça reste l'objectif principal du club. Même si voilà, il y a des points précieux qui sont glanés tous les week-ends, il faut garder à l'esprit que l'objectif pour le TEF, c'est vraiment de se maintenir et d'arriver à peut-être entamer un nouveau cycle. Et puis quoi qu'il arrive, je pense qu'il n'y a personne qui sera déçu, même s'il y avait une défaite, au hasard, si le TEF prend 4-0, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en voudra au TFC, parce que le parcours, il a été beau, il y a eu des matchs intéressants. Et il y a eu des émotions, donc voilà, à partir de là, je pense qu'on ne peut pas leur reprocher grand-chose, et on va leur demander de se concentrer sur la Ligue 1 derrière.
Voilà, il va falloir être au combat pour cette fin de saison. En Ligue 1, voilà, justement, on va en parler de ce TFC Benfica, on va vous demander votre pronostic. Alors, c'est bien, on a le temps, donc on va faire deux matchs différents. On va parler ballon rond et ballon ovale. On va commencer par le ballon rond, TFC Benfica. On va commencer par Coraline. Coraline, vous avez écouté les arguments d'Erwan, de Corentin, mes interrogations, mes inquiétudes. Coraline, vous avez 30 secondes pour nous donner le pronostic entre le TFC et le Benfica. C'est ce jeudi à 18h45 au Stadium.
Alors, ce jeudi à 18h45, bien évidemment, j'opte pour une victoire, exactement, je rame, ouais, on devrait vraiment filmer, j'opte pour une victoire du TFC 1-0, donc du coup, prolongation, victoire du Benfica, voilà.
Très bien.
Ça vous va ?
Ça me va très bien.
Ah, j'ai fait ce que j'ai pu là déjà.
Mais c'est exactement ce qu'on demandait.
C'est exactement ce qu'on demandait.
C'est pas ce que le TFC veut.
Non, effectivement, pardon. Corentin, même sujet, même temps.
Bon, écoutez, j'allais partir sur un peu la même chose que Coraline, mais bon, je vais me raviser. Je pense que même ça va se jouer jusqu'au tir au but. Et je vois le TEF se qualifier au tir au but avec une séance de pénalty qui aurait été bien bossée, au contraire de celle en Coupe de France. Et voilà, le TEF qui apprend de ses erreurs passées pour prolonger un petit peu le rêve européen.
Très bien, voilà. Tout le monde voit passer le TFC, c'est plutôt bon signe. Il reste 4 secondes, Corentin peut-être.
Bah, du coup, 2-1 score final et après les pénaltys.
Ok, superbe, c'est noté. Corentin. Erwan, pardon, à vous. Corentin, c'est noté.
Alors, moi aussi, j'imaginais les tirs au but, mais au final, je vais me raviser, histoire d'avoir quelque chose d'un peu...
c'est quand même terrifiant, vous avez tous choisi le même...
Un peu hétérogène. mais voilà, donc moi, je vais dire 1-0 pour le TFC à la 90e minute, donc forcément, prolongation. Et après, le deuxième but du TFC dans les prolongations, et le TFC qui gagne. On a vécu la magie de la Coupe de France l'année dernière, moi, je vive la magie de la Coupe d'Europe cette année.
Ça vous arrange parce que vous êtes au stade aussi.
Ah oui, ça serait bien. Si je pouvais éviter de regarder en regardant le trottoir, ça serait sympa.
Très bien. Et donc, on va passer au ballon ovale avec une rencontre qui sera un petit peu plus tard. Dimanche 25 février, 21h05, Clermont recevra Toulouse chez eux. Donc, voilà, là, c'est un petit peu plus compliqué, je pense. Coraline, ballon ovale, ça vous intéresse un petit peu plus? 30 secondes pour nous donner votre avis.
Un peu plus, en effet. Toulouse arrive à bien gérer, là, pour le coup. C'est la période de doublon qui lui est imposée. Je crois en une victoire du stade à Clermont, mais quand même une victoire d'une courte tête, allez, peut-être 15 points d'écart, mais pas beaucoup plus. Pas de points de bonus, du coup, ni de l'un ni de l'autre, forcément, du coup. Voilà.
Très bien. Eh bien, on va couper le temps. Erwan, rapidement, vous, c'est quoi votre avis sur ce match?
Alors, pour Clermont-Toulouse, moi j'imagine Clermont l'emporter, notamment parce qu'ils avaient très très mal vécu le match aller à Toulouse. Ça avait fait beaucoup parler dans les médias, dans les journaux, dans les conférences de presse surtout, parce que Hugo Mola et Christophe Furios, même si Hugo Mola ne se présente pas trop aux conférences de presse de Top 14, ils en avaient profité pour mettre un peu de grain à moudre dans les médias. Donc je pense que Clermont va arriver remonter comme des coucous. Il n'y a pas trop de joueurs qui sont appelés en sélection. Et ils vont vouloir vraiment faire un gros gros résultat, notamment parce qu'ils ont été assez déçus des performances récentes. Donc voilà, victoire d'une dizaine de points d'avance de Clermont.
Ça sera déjà pas mal quand même, une dizaine de points d'avance, c'est déjà pas mal.
Oui, et puis Clermont a besoin de points, et le stade toulousain, je pense, est un peu trop confiant.
On avait dit 30 secondes, pas plus. Voilà, ça suffit. Merci beaucoup, Erwan. Et Corentin, 30 secondes pour ASM Stade Toulousain, on vous écoute. Et ce sera le dernier pronostic.
Je pense que ce sera un match serré, du coup, ce Clermont-Toulouse. Comme le disait Erwan, ça va être un match avec une bonne revanche à prendre pour Clermont, qui était sur une bonne dynamique avant de perdre ce week-end. Et je pense que la météo et les conditions vont pas forcément favoriser le jeu des Toulousains, peut-être avantager un petit peu Clermont. Et je dirais, moi, un petit match nul, 16 partout. Je pense qu'il n'y a personne qui va vraiment tirer son épingle du jeu dans ce match.
16 partout. Vous, l'ancien Clermontois, en plus. Voilà.
Moi, je suis né à Toulouse, mais j'ai fait mes études à Clermont. Donc, voilà, on connaît un peu.
On connaît un peu la terre. Merci beaucoup, Corentin. Merci beaucoup, Erwan. Merci beaucoup, Coralie. Merci beaucoup, vous, qui nous avez écoutés lors de cette heure.
Merci.
C'est incroyable.
On est ému par tant de vivement
les vacances. Semaine prochaine, on parlera d'haltérophilie avec le Toulouse Haltéro Club. Donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même radio.